On cite souvent ce verset, là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et alors que je réfléchissais sur ce passage, sur ce verset, et je me suis rendu compte que finalement, ce verset qui est donné par Jésus, eh bien, il a une dimension qui est bien plus forte encore que le simple fait de dire qu'il est au milieu de nous. Parce que c'est vrai, Dieu est au milieu de nous, Jésus est présent au milieu de nous par son esprit, c'est une vérité. Mais lorsqu'on analyse finalement ce verset, dans quel cadre il est placé, dans quel contexte il est placé, on se rend compte qu'il y a une dimension qui est là bien plus forte. On va voir ensemble que, ce verset, il est placé dans une première partie où Jésus va enseigner, où Jésus va montrer de quelle manière, eh bien, il désire que l'on puisse résoudre les conflits dans l'Église. De quelle manière, eh bien, on devrait reprendre un frère ou une sœur qui a péché. Et après, entre ce verset, il va parler du pardon. De quelle manière on doit pardonner? Combien de fois on doit pardonner? Et je trouve que ce verset, il apporte finalement ce verset qui est entre ces deux points apportent une dimension qui est bien plus forte. Et on va voir ça ensemble ce soir. On va lire dans Matthieu 18, versets 15 à 20. Si ton frère, c'est Jésus qui parle, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Alors qu'on lit ensemble cette première partie, eh bien, Jésus enseigne à ses disciples de quelle manière eh bien, on devrait résoudre les conflits qu'il peut avoir dans l'Église. Il donne là finalement plusieurs instructions. Et il dit que si ton frère a péché ou si ton frère t'a offensé, s'il y a quelque chose avec ton frère ou avec ta sœur, eh bien premièrement, va et règle cette histoire dans le secret, règle cette histoire eh bien, en tête à tête. C'est la première étape qui est enseignée par Jésus. L'affaire doit d'abord se régler en une affaire privée. Et si finalement le coupable eh bien, reconnaît sa faute, le problème est résolu et finalement eh bien, les deux frères se réconcilient. Tu as gagné ton frère ne veut pas dire que eh bien, voilà, c'est moi qui ai gagné le conflit, je suis le plus fort, mais tu as gagné ton frère, c'est dans le sens où, oui, finalement, s'il a accepté de passer par la repentance, s'il a accepté de demander pardon, alors oui, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, eh bien, que l'affaire prend eh bien, plus de proportions, eh bien, Jésus dit, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. C'est là la deuxième étape enseignée par Jésus. S'il ne refuse de t'écouter, s'il refuse finalement de passer par la repentance, de demander pardon, eh bien, qu'il soit amené avec deux témoins, un ou deux frères, et que par cette démarche, eh bien, que les frères puissent aussi de servir de témoins et que eh bien, cette personne puisse passer eh bien, par cette démarche. Que finalement, à travers ces différentes personnes, que eh bien, la personne qui a péché ou la personne qui a été offensée puisse se rendre compte finalement de son erreur. Mais s'il refuse de les écouter, Jésus dira, eh bien, dis-le à l'Église. C'est là une troisième étape qui concerne un problème qui peut être bien grave, un problème qui va encore plus loin. Si le frère s'obstine et finalement qui reste dans sa position, qui refuse finalement de se soumettre, qui refuse finalement eh bien, de s'abandonner, de demander pardon, eh bien, le problème eh bien, peut être là, engagé au travers le CA, au travers l'Église même, eh bien, mais le but finalement n'est pas de juger le frère ou de lui dire « mais c'est pas bien ce que tu fais, tu dois revenir, c'est pas bien », mais c'est dans le but de l'encourager, de l'amener finalement à prendre conscience de son erreur, de l'encourager, de l'amener à une réelle repentance. Et si ce dernier recours eh bien, échoue, Jésus va même plus loin, il va leur dire, s'ils refusent d'écouter même toute l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Si le frère reste dans cette position, finalement, c'est que consciemment, peut-être qu'il pêche consciemment, ou peut-être qu'il reste dans sa position parce que par orgueil ou que sais-je, eh bien, selon la gravité de la situation, cela peut même aller jusqu'à une exclusion. Dans les cas extrêmes, les responsables de l'Église peuvent prendre la décision eh bien, d'exclure. Ce n'est pas dans le but de se venger ou d'humilier le frère, mais c'est de le but qu'il puisse prendre conscience de son erreur et qu'il puisse rétablir sa communion avec Dieu, qu'il puisse rétablir aussi sa communion avec le frère ou avec la sœur qu'il a offensé. Toute cette démarche que Jésus démontre, ces quatre points, doit être fait dans un esprit d'amour, non pas de jugement, mais d'amour. Et Jésus, finalement, il donne ces quatre étapes, ces quatre processus, finalement, dans lesquels le conflit, dans lequel, eh bien, si un frère ou une sœur a péché, de quelle manière ça doit être résolu, cette histoire. Et après, suite à cela, il y a Pierre. Pierre qui va intervenir, vous connaissez Pierre. Pierre, eh bien, qui agit souvent avec spontanéité, il dira, dans Matthieu 18, versets 21-22, c'est la suite de l'histoire, il dira, alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Mais Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 70 fois selon les traductions. Pierre, eh bien, il était là, il dit, d'accord, je comprends bien ce que tu veux dire, Jésus, avec toutes ces différentes procédures, mais alors combien de fois on doit pardonner ? Est-ce qu'on doit pardonner 7 fois ? Pour lui, il pensait peut-être que 7 fois, c'était énorme. Et Jésus va lui dire, mais non, ce n'est pas 7 fois. Tu peux multiplier par 70, 490 fois pour ceux qui sont bons en maths. 490 fois. Autant dire finalement que c'est une infinie de fois. Jésus veut lui montrer que, oui, je montre les instructions qu'il faut respecter. Mais la toute première étape, avant même d'engager ces instructions, avant même d'aller voir le frère, eh bien, pour le ramener à la raison, il faut d'abord pardonner. C'est là la première étape la plus importante que Jésus va lui dire. Et tu dois pardonner. Ce n'est pas 7 fois, ce n'est pas 10 fois, mais c'est une infinité de fois qu'il faut pardonner. Alors on pourrait se poser cette question, mais pourquoi Jésus donne des instructions ? Pourquoi eh bien, il faudrait aller rencontrer le frère seul une première fois ? Pourquoi eh bien, il faudrait le voir avec 2 ou 3 témoins s'il n'obéit pas ? Pourquoi eh bien, il faudrait l'amener devant toute l'Église ? Il suffirait peut-être simplement de le pardonner. On pardonne et puis c'est réglé, on n'en parle plus. Mais Jésus montre finalement que le pardon, il est essentiel. On a besoin de pardonner avant même, finalement, d'aller voir le frère ou la sœur en question. On doit avoir déjà pardonné en nous-mêmes. On doit déjà avoir pardonné dans notre cœur. Jésus nous demande, eh bien, oui, de pardonner notre frère ou notre sœur qui peut-être nous aurait offensés ou qui nous aurait fait du mal ou qui nous aurait blessés. Mais ce pardon doit être aussi accepté par cette personne. On peut, oui, pardonner la personne, mais il faut que la personne en retour puisse accepter ce pardon. Il faut que la personne en retour puisse aussi demander pardon, se repentir et accepter ce pardon. Lorsque on est offensé par quelqu'un, lorsqu'une frère ou une sœur eh bien, nous a offensé, nous a causé du tort, comme on l'a lu, eh bien, Jésus nous enseigne que déjà, la première attitude, c'est de pardonner dans notre cœur. Quand Jésus il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Il ne demande pas d'y aller dans cette intention de le blesser, de l'accuser, lui dire c'est pas bien ce que tu fais. Mais il demande d'abord de pouvoir pardonner dans notre cœur. Comme il le disait à Pierre, tu dois pardonner 490 fois, tu dois d'abord pardonner. Et ensuite, avec amour et sagesse, tu dois aller voir ton frère pour lui dire, écoute, il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose qui m'a blessé. Et si ce frère, finalement, il accepte de se repentir, il accepte ton pardon, eh bien alors tu as gagné ton frère. et tu pourras lui dire « Oui, tu es pardonné ». Jésus dit dans Luc 17, versets 3 et 4, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Notre pardon ne doit pas se limiter à 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, Jésus nous dit que même si c'est 7 fois par jour, et même s'il revient à toi en demandant pardon, tu dois lui pardonner. C'est ainsi que notre Dieu a agi envers nous. Lorsque nous avons demandé pardon à Dieu pour notre péché, et lorsque nous continuons de demander pardon à Dieu pour les péchés que nous pouvons faire, pour les erreurs que nous pouvons commettre, notre Dieu n'est-il pas juste pour nous pardonner ? Est-ce que Dieu ne se limite pas en disant « ça fait déjà 2 fois aujourd'hui, je vais m'arrêter. Je t'ai pardonné 2 fois, reviens demain et peut-être que je te pardonnerai demain. » Mais Dieu n'est pas limité dans sa grâce. La Bible dit dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu ne cesse de pardonner celui et celle qui s'approche de lui dans cette attitude de repentance. Celui qui vient avec un cœur repentant, avec une humilité, Dieu ne cesse de lui pardonner. Et Jésus nous demande de pardonner comme lui nous a pardonné. Des fois, c'est difficile de pardonner. Selon ce qu'on a vécu, selon ce qu'on a subi, on a du mal à pardonner. Mais le manque de pardon, eh bien, ça peut avoir un impact dans notre relation avec Dieu. Le manque de pardon peut troubler notre relation avec Dieu. Ça peut impacter notre vie spirituelle. Lorsque un frère ou une sœur nous a offensés, eh bien, ça peut laisser la porte ouverte à l'amertume, la rancœur, voire la colère et toutes ces choses-là. Mais le pardon nous libère de toutes ces choses. Le pardon nous libère d'un poids, le pardon nous libère de toute cette amertume ou cet esprit de revanche qu'on peut avoir parfois. Le pardon nous libère de ce poids et nous rapproche de Dieu. Dieu nous demande, oui, de pardonner. Le manque de pardon peut aussi empêcher ou retarder l'exaucement de notre prière. Nous sommes là dans une réunion de prière et nous pouvons avoir différents sujets à cœur. Nous pouvons prier pour telle ou telle chose avec foi, avec conviction. Et si Dieu nous disait ce soir, j'entends ta prière, mais il faut que tu pardonnes d'abord. Il faut d'abord que tu pardonnes. Si tu veux voir ta prière être exaucée, il faut que tu pardonnes d'abord. Marc 11, verset 25 à 26, je ne vais pas être trop long, je vais relativement vite pour qu'on puisse prendre du temps justement dans la prière après. Et Jésus dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si nous prions en gardant une attitude peut-être de rancœur ou d'amertume envers quelqu'un, il se peut que Dieu ne réponde pas à nos prières. Jésus nous demande de pardonner si nous voulons nous aussi être pardonnés. Bien sûr, Jésus ne parle pas du pardon des péchés. Lorsque nous sommes passés par la conversion, lorsque nous avons demandé pardon à Dieu pour nos péchés, Dieu, dans sa grâce, nous a accordé le salut par la foi. Dieu ne revient pas là-dessus, mais lorsque Jésus dit que Dieu nous pardonne, il parle d'une relation personnelle avec Dieu. Parce que le manque de pardon vient interrompre la relation avec Dieu. Et si nous demandons pardon, notre relation avec Dieu est rétablie. Et si nous prions avec foi pour une certaine chose, lorsque nous demandons pardon, Dieu prend plaisir d'écouter et d'exaucer nos prières. Regardez ensemble la parabole que Jésus va donner un petit peu plus loin à ses disciples. Dans Matthieu 18, versets 23 à 35, donc c'est la suite, après avoir expliqué à Pierre qu'il devrait pardonner, il va lui donner cet exemple. cette parabole. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant : « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliant, disait : « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qu'il était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon ? Comme j'ai eu pitié de toi. » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Dans cette parabole, c'est l'histoire d'un roi. D'un roi qui voulait remettre sa comptabilité à jour. Alors il regardait un peu toutes les dettes. Et puis, il s'est rendu compte qu'il y avait un serviteur qui lui devait 10 000 talents. Alors, il appelle ce serviteur, il lui dit : « Voilà, tu me dois, j'ai fait les comptes, j'ai mis mes comptes à jour, tu me dois 10 000 talents. » Mais 10 000 talents, c'est quelque chose d'énorme. J'ai fait le compte et, par rapport aux talents, et en fait, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment énorme. 10 000 talents, ça représenterait, pour l'époque, 60 millions de jours de travail. Et même si cet homme avait envie de travailler tous les jours de l'année, 7 jours sur 7, il n'arriverait même pas parce qu'il lui faudrait 160 000 ans. Imaginez de quelle dette, à quel point il était endetté. Et comme il ne pouvait payer une telle somme, le serviteur le supplia et il lui dit : « Mais accorde-moi un petit sursis, je pourrais te rembourser. » Mais en réalité, c'est impossible de rembourser. Et son maître fut ému de compassion. Et finalement, il lui remit toute sa dette entière. Les 10 000 talents, il n'avait plus rien, il ne devait plus rien. Et alors aussitôt, le serviteur est parti, il allait voir un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, 100 malheureux deniers. Alors 100 deniers, pareil, j'ai fait le calcul, ça représente 100 jours de travail tout de même. Mais c'est quoi par rapport à 10 000 talents ? C'est rien. Alors il a attrapé son compagnon, il a étranglé, il a menacé, il a dit : « Donne-moi ce que tu me dois. » Et l'autre, il a supplié, et finalement il a refusé, il a jeté en prison. Alors, les autres serviteurs, ils ont vu son comportement, ils sont allés voir le maître. Et le maître fut irrité. Finalement, il a rappelé son serviteur, il lui dit : « Mais méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié, et toi, ton compagnon, qui te devait finalement une dette minime, pas grand-chose, tu as refusé. » À travers cette parabole, Jésus il montre quelque chose de fort. Vous l'aurez compris, le roi désigne Dieu. Le roi représente Dieu, le maître représente Dieu, et les serviteurs, c'est nous. Nous sommes tous des serviteurs. Nous sommes tous endettés. Endettés, pourquoi ? À cause de notre péché. Parce que nous avons un péché, nous avons une dette envers Dieu incapable de payer. Cette dette était impossible à payer. Jésus donne cette image de 10 000 talents pour montrer finalement l'immensité de cette dette que nous devions à Dieu. Une dette impossible à payer. Mais Dieu, dans sa compassion, dans sa grâce, il nous a accordé un pardon total et gratuit. La dette a été totalement effacée. Jésus nous montre qu'à travers cette parabole, nous avons bénéficié d'une grâce imméritée de Dieu, d'une grâce tellement grande de Dieu. Et si nous, finalement, qui ne méritions pas une si grande grâce, nous qui sommes sous cette grâce divine, de quel droit nous refuserions de pardonner quelqu'un ? si Dieu nous a pardonné, si Dieu nous a finalement effacé la dette énorme que nous avions, pourquoi ne pardonnerons-nous pas notre frère ou notre sœur, finalement? 100 deniers, c'est pas grand-chose, finalement, par rapport à 10 000 talents. Et le roi fut irrité et livra son serviteur au bourreau à cause de son comportement. Jésus dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Je parlais au tout début de ce verset, car là, deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et vous voyez que ce verset, finalement, il est placé entre deux points. Le premier point, Jésus montre de quelle manière il faut résoudre un conflit avec les différentes étapes. Et après, il montre la nécessité de pardonner. Jésus est au milieu de nous lorsque nous sommes capables de pardonner. La Bible dit dans Éphésiens 4, versets 31 à 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. La Bible nous encourage à être bons les uns envers les autres, compatissants, en nous pardonnant comme Dieu nous a pardonné. Si Dieu nous a pardonné, pourquoi ne pardonnerions-nous pas notre frère ou notre sœur? Le pardon peut être des fois difficile à accorder. Humainement, on peut se dire que c'est impossible. Nous avons besoin d'être remplis de l'amour de Dieu pour pouvoir pardonner comme lui nous pardonne. Lui seul est capable de nous communiquer son amour pour pardonner ce qui est impardonnable humainement. Nous devons apprendre à pardonner comme Dieu lui-même nous a pardonné. Je vais finir sur ce verset, Colossiens 3, verset 13. « Supportez-vous les uns les autres. » Ça reprend un petit peu l'autre verset. « Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Alors on peut se dire, mais c'est pas ma faute, c'est lui qui m'a offensé, c'est lui qui m'a fait du mal. Mais c'est justement là qu'il faut pardonner. Si tu n'as pas offensé, il n'y a rien à pardonner. C'est vrai, hein? Pardonnant comme Dieu aussi nous a pardonné. Et finalement, Dieu, Jésus, lorsqu'il dit que deux ou trois sont assemblés en mon nom, lorsque deux ou trois s'accordent finalement entre eux, s'accordent, s'unissent dans la prière, s'unissent dans cette unité, dans ce pardon mutuel, eh bien Dieu est au milieu d'eux. Dieu est au milieu d'une église où il y a l'amour, où il y a du pardon. Dieu est au milieu d'une église qui est unie et Dieu bénit cette église. Amen. Est-ce que nous voulons être cette église encore ce soir unie, capable de pardonner les uns des autres réciproquement comme Dieu nous a pardonné? Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ces exemples qui sont frappants. Oui, tu es ce Dieu plein de miséricorde, plein de compassion envers nous. Tu as su nous pardonner alors que nous ne méritions pas. Tu as su nous accorder ton pardon par grâce, par amour, Seigneur. Merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus qui nous accorde ce salut éternel, Seigneur. Merci. Oui, parce qu'à travers cet exemple, tu nous montres, Seigneur, combien tu étais bon envers nous. Et nous voulons nous aussi apprendre à pardonner comme tu nous as pardonné. Nous voulons pardonner ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont fait du mal. Nous voulons suivre ton exemple, Seigneur. Oui, lorsque deux ou trois sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Je crois, Seigneur, que tu es présent aujourd'hui parmi nous dans cette église. Et nous voulons être cette église dans laquelle tu te plais, Seigneur. Nous voulons être cette église dans laquelle il y a cet amour, dans laquelle il y a ce pardon mutuel, dans laquelle eh bien, toute amertume, animosité puisse être chassée, mais qu'il puisse y avoir de l'amour, Seigneur. Merci encore de nous aider, de nous encourager à marcher dans ta volonté, dans tes pas, Seigneur. Ton nom revienne toute la gloire, Jésus. Amen. Jesus.